Chers collègues, mesdames, messieurs, avant tout, permettez-moi de dire que je suis très honoré d'avoir été invité à participer à ce colloque de papyrologie et je remercie M. Jean-Luc Fournet d'avoir pensé à moi pour vous proposer quelques éléments de réflexion basés sur des matériaux extra-méditerranéens. Alors, il me faut également souligner, avant de commencer, que le terme de bambouologie qui figure sur votre écran n'est en aucun cas un terme officiel. À ma connaissance, celui-ci n'a été utilisé que par mon maître, Marc Kalinowski, comme un clin d'œil, dans une interview qu'il a donnée à une agence de presse chinoise en 2008. Bien qu'inusité, ce terme m'a semblé approprié pour signaler la singularité des matériaux sur lesquels je travaille dans le cadre d'un colloque de papyrologie. En effet, si on peut considérer le papyrus comme emblématique du monde méditerranéen ancien, le bambou l'est tout autant pour le monde chinois ancien. Même si, nous le verrons, il ne s'agissait pas du seul support d'écriture utilisé à cette époque. Le propos de ma communication est de présenter les problèmes que les spécialistes de la Chine ancienne rencontrent pour classer les documents manuscrits que nous livrent les archéologues. Mais avant d'évoquer ces problèmes de classification, il m'a semblé utile de replacer ces documents dans un contexte sans doute peu familier à la plupart d'entre vous. Les supports d'écriture ordinaire les plus couramment utilisés dans la Chine ancienne étaient réalisés en bambou, en soie, en bois, ainsi que dans une moindre mesure en soie. Ces matières furent progressivement remplacées par le papier à partir du IIe siècle de notre ère. Même s'il est certain que de tels matériaux furent utilisés très tôt en Chine, probablement dès la fin du IIe millénaire avant notre ère, le plus ancien témoignage connu actuellement n'est lui daté que des alentours de 433 avant notre ère. Depuis le début du XXe siècle, les explorateurs, puis les archéologues, ont mis au jour en Chine de très nombreux documents donc sur bois, sur soie et sur bambou. Pour une période allant du Ve siècle avant notre ère au IIIe siècle de notre ère, on dispose aujourd'hui de plus d'une centaine de livres manuscrits et de plusieurs dizaines de milliers de documents. Je reviendrai dans un instant sur ce que j'entends par livre et par document. Ces écrits proviennent essentiellement de deux types de contextes, l'un funéraire, l'autre non funéraire. Dans les tombes de cette période pouvaient être déposés des documents liés aux funérailles, comme des inventaires funéraires ou des documents liés aux croyances concernant le passage vers l'autre monde. On y trouvait aussi parfois des documents liés à la vie du défunt ou encore des textes littéraires. Ici, un cas plutôt exceptionnel où les manuscrits ont été déposés à l'intérieur du cercueil, autour du corps du défunt. On avait généralement dans les tombes des ensembles de textes considérés comme des unités complètes au moment où elles étaient déposées dans la sépulture, même si la cohérence de ces unités nous échappe parfois. Les documents découverts en contexte non funéraire sont presque pour toujours des documents abandonnés, jetés au rebut, parce que jugés à un moment donné comme inutiles. Il s'agit donc le plus souvent de documents administratifs, dont on s'est débarrassé sans aucun soin. Ils sont souvent fragmentaires et n'ont pu se conserver jusqu'à nos jours que parce qu'ils se trouvaient dans un environnement naturel exceptionnel. Il s'agit tout d'abord des régions désertiques du nord-ouest de la Chine. Nous ne sommes pas dans le Sahara, mais nous sommes dans le désert de Gobi, qui est également extrêmement sec. Et l'autre contexte favorable, ce sont les puits où les niveaux des nappes phréatiques sont restés relativement stables au cours des siècles et que l'on trouve principalement cette fois-ci dans le sud de la Chine. C'est dans ce cas le contexte anaérobie qui a favorisé la conservation des matières organiques, dans un environnement humide permanent. Donc, les livres et les documents découverts dans ces différents contextes se présentaient sur des supports au format varié. Nous avons donc, d'une part, des tablettes en bois ou plus rarement en bambou, le support standard dans la Chine ancienne étant des tablettes d'environ 23 cm de hauteur. C'était un standard dans l'administration de l'époque. On a également des pièces de soie avec de formes et de tailles variées. Et enfin, nous avons donc des clés, comme vous avez ici, donc des clés de latte, soit en bois, soit en bambou. Et ces clés présentaient l'avantage sur les supports précédents de pouvoir être rallongées en ajoutant autant de lattes supplémentaires que les textes copiés ne le nécessitaient. Mais malheureusement pour nous, les liens horizontaux que vous voyez ici apparaître, reliaient à l'origine les lattes entre elles, n'ont généralement pas survécu. Et lorsque les archéologues découvrent aujourd'hui de tels manuscrits, ils se présentent le plus souvent comme des ensembles de lattes séparées les unes des autres, dont il convient de retrouver l'ordre d'origine. En fonction du type de texte que l'on avait à écrire et de l'usage que l'on souhaitait en faire, on choisissait l'un ou l'autre de ces différents supports. Le contenu de ces matériaux est extrêmement varié. Pour l'appréhender dans son ensemble, les spécialistes de la Chine ancienne ont proposé différents types de classements. La plupart des chercheurs considèrent que l'on doit ou que l'on peut avant tout s'appuyer pour établir ces classements sur les classements qui existaient déjà dans la Chine ancienne. Le plus évident d'entre eux est celui opposant les textes conservés dans les bibliothèques et ceux conservés dans les archives. Cette distinction que les sources littéraires évoquent pour les alentours de notre ère d'une manière très claire à la cour des Han s'observe également dans les tombes dans lesquelles on constate une tendance à séparer les deux types d'écrits. Pour classer les œuvres conservées dans les bibliothèques, on s'appuie généralement sur un traité bibliographique inclus dans une des premières histoires officielles chinoises, lui-même basé sur un catalogue de la bibliothèque impériale des Han, compilé aux alentours de notre ère. Cette bibliothèque, contenant à l'époque un grand nombre de textes écrits entre le 5e et le 2e siècle avant notre ère, voire même des textes plus anciens, l'adoption du classement de ce traité semble a priori tout à fait pertinente pour l'étude de nos manuscrits. Voici les différentes catégories qui sont adoptées dans ce traité bibliographique. Donc nous avons d'une part ce qu'on appelle les sizars, qui correspondent aux textes classiques, puis les maîtres, ce sont les écrits des penseurs et des philosophes, la poésie, les écrits militaires, les nombres et les techniques, qui correspondent à des textes ou à des livres concernant le calcul, la divination, les calendriers, et enfin une sixième catégorie appelée recettes et procédés, qui est liée essentiellement à la médecine et aux techniques de santé. Ainsi, on obtient une classification des textes relativement claire, basée sur un nombre de catégories assez limité, ce qui est plutôt souhaitable quand on souhaite établir un classement. Mais ce classement pose en réalité plusieurs problèmes. En effet, et ce, dès l'époque des Han, donc dès les alentours de notre ère, des lettrés ont souligné qu'il existait des hésitations pour classer certaines œuvres. C'est par exemple le cas pour les écrits de Maître Guan ou Guanzi, qui apparaissaient dans le catalogue de la bibliothèque impériale dans deux catégories distinctes, d'une part dans la catégorie des maîtres et d'autre part dans la catégorie des écrits militaires. Il y a aussi des types de textes que nous rencontrons fréquemment dans les tombes anciennes et qui ne semblent pas trouver leur place dans ces catégories traditionnelles. Je pense en particulier au recueil de lois, qui manifestement n'avaient pas leur place à cette époque dans la bibliothèque impériale des Han, mais que l'on a du mal à considérer comme de simples pièces d'archives. On peut aussi se demander si ce classement appliqué aux livres de la bibliothèque impériale était également suivi pour les autres bibliothèques, pour les bibliothèques privées, par exemple. Ces différentes remarques ont amené certains chercheurs, comme mon collègue de l'université de Heidelberg, le professeur Eno Gille, à se détacher des catégories traditionnelles pour proposer son propre classement, reflétant davantage la variété des matériaux exhumés de nos tombes. Et on touche là, à mon avis, à un point important de cette réflexion sur le classement des textes de l'Antiquité. Finalement, que désirons-nous faire ? Recherchons-nous un système de classement nous permettant de donner une image un peu plus claire des différents types de textes qui ont été découverts et qui donc étaient vraisemblablement en circulation à cette époque ? Ou bien cherchons-nous à retrouver des catégories qu'avaient en tête les personnes qui utilisaient ces ouvrages ? En fait, la plupart des systèmes de classement qui ont été proposés par les chercheurs pour la Chine ancienne sont un mélange des deux. Un autre problème que posent ces classements est qu'il existe différents niveaux de lecture et d'analyse. Le classement souvent adopté en Chine entre livres d'une part et documents est basé sur la fonction des écrits, sur leur destination, qui explique pourquoi les uns seront conservés en bibliothèque et les autres dans des archives. Le problème est que nous travaillons souvent, surtout pour les matériaux découverts en contexte non funéraire, sur des textes fragmentaires. Dans ce cas, nous pouvons facilement déterminer plus facilement la nature d'un texte que sa fonction. En effet, nous pouvons, par exemple ici, identifier assez aisément des textes littéraires dans ces fragments écrits sur des lattes en bois abandonnées dans les vestiges de portes de postes de garde aux frontières de l'époque des Han dans le nord-ouest de la Chine. Or, pour l'essentiel, il ne s'agit pas là de fragments de livres, mais d'exercices d'écriture pratiqués par des conscrits. Ainsi, si le contenu de ces copies renvoie bien à la catégorie des œuvres littéraires, les documents en question ne peuvent en aucun cas être considérés comme des livres. Du point de vue de leur usage, les copies scolaires peuvent être rapprochées des brouillons de documents administratifs. Là encore, si le contenu d'un brouillon peut être identique à celui d'un document officiel, le brouillon n'avait bien évidemment pas la même valeur. Il n'avait pas non plus vocation à entrer dans le circuit des documents officiels au sein de l'administration. Parmi les œuvres les plus fréquemment copiées par les soldats de l'époque des Han, on trouve ce que l'on appelle des manuels d'écriture, comme par exemple le Zhangjiepian. Le fait de copier un manuel d'écriture paraît a priori tout à fait cohérent. Mais le même texte se trouve également, à la même époque, sous forme de livres cette fois, dans des tombes aristocratiques, où il n'avait bien évidemment pas la même fonction. Il témoignait là plutôt de la culture du propriétaire de la tombe. Une des distinctions les plus souvent retenues par les sinologues est celle faite entre textes littéraires et textes techniques, qui fonctionnent dans l'ensemble relativement bien. Toutefois, il n'est pas rare de trouver dans les textes techniques de l'époque des Han des connaissances présentées sous la forme d'un dialogue entre personnages historiques ou mythologiques, comme dans le texte des 10 questions présenté ici, donc un texte médical du IIe siècle avant notre ère. Donc, présenté sous la forme d'un dialogue, suivant un modèle répandu dans les textes philosophiques de l'Antiquité. Dans d'autres ouvrages techniques, comme le texte de mathématiques qui se trouve à la droite de votre écran, c'est dans la préface que seront racontées les origines des connaissances développées dans l'ouvrage en question. là encore sous une forme très proche de ce que l'on peut trouver, de ce que l'on peut lire dans des textes philosophiques ou littéraires, ou historiques. On peut aussi évoquer le cas des pièces de correspondance que l'on identifie normalement à des documents, même si certaines d'entre elles ont des qualités littéraires indéniables, et c'est en partie pour ces raisons que certaines lettres, on le sait, ont par la suite été intégrées dans des anthologies littéraires. On peut faire le même constat pour certains documents administratifs qui ont été inclus ultérieurement dans des ouvrages d'histoire en raison de leur intérêt historique. Certains ouvrages, pouvaient avoir un statut ambigu, se présentant à la fois comme des œuvres littéraires de la culture lettrée de l'époque et comme des textes pouvant faire l'objet d'une application concrète. Je pense par exemple au Livre des Mutations, ou Zhou Yi, qui est à la fois un des piliers de la culture chinoise lettrée de l'Antiquité et, pour certains, un authentique manuel de divination. Ou encore, je pense au Traité des arts de la guerre de Sun Tzu, là encore une œuvre appréciée des lettrés de l'époque des Han, et en même temps perçue par beaucoup et jusqu'à aujourd'hui comme un manuel pratique de technique militaire. Pour conclure cette rapide présentation, je dirais que la question de la classification des documents de la Chine ancienne est complexe et que les réponses qui ont été apportées sont rarement entièrement satisfaisantes. Le plus souvent, elles reflètent en partie au moins une perspective particulière adoptée par un auteur. Les pistes de réflexion que je propose n'échappent sans doute pas à ces critiques. Différentes méthodes de classement sont, à mon avis, envisageables, mais il convient de garder à l'esprit les limites de l'exercice. Si des catégories ont un sens pour organiser les documents d'une collection, que ce soit sur des étagères ou à l'intérieur d'un ouvrage papier, peut-être en ont-elles moins si on cherche à les utiliser pour comprendre la nature des corpus sur lesquels nous travaillons, ou si on envisage l'usage de bases de données ou de publications numériques. En effet, dans ces cas-là, l'idéal serait peut-être de pouvoir définir nos objets d'étude en fonction de plusieurs critères. On pourrait par exemple imaginer essayer de définir d'une part la nature d'un texte étudié et d'autre part le type de document étudié. Dans cette perspective, la distinction entre texte littéraire et texte documentaire me paraît tout à fait pertinente. Mais dans le cas chinois, en tout cas, je serais tenté de la compléter, entre autres, avec une distinction entre livre et document, les deux ne se recoupant pas forcément et correspondant, de mon point de vue au moins, à deux niveaux d'analyse différents, d'une part le texte et d'autre part le document. Dans le domaine de la papyrologie, la question de la classification des écrits littéraires et documentaires jouit manifestement d'une tradition plus ancienne que dans celui de la bambouologie. Et c'est pourquoi je me réjouis par avance de pouvoir bénéficier aujourd'hui des remarques et des critiques de mes collègues ici présents. Merci de votre attention.